France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 janvier. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Yannick Bestaven qui remporte la 9e édition du Vendée Globe à l'issue d'une course folle. Un naufrage, des abandons, des collisions et un classement totalement inédit. Nous allons retrouver dès le début du journal nos envoyés spéciaux au Sable d'Olonne et entendre les premiers mots de ces héros de la mer juste après les autres titre, Agnès.
Le ton monte entre Bruxelles et le laboratoire AstraZeneca sur fond de course à la vaccination. En Californie, on les appelle justement les chasseurs de vaccins. Qui sont-ils ? Reportage à Los Angeles. Pour éviter une refermeture, les commerçants français ne manquent pas d'idées. Et puis face à la multiplication des catastrophes naturelles, la loi doit s'adapter. Une proposition sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée.
Les invités du 7-9 ce matin, 7h50, Léa.
Oui, il a lâché hier un mot qui a suffi à inquiéter le pays. Le reconfinement pourrait être très serré, a dit Gabriel Attal à l'issue du Conseil de défense hier. Très serré, ça veut dire quoi ? On lui pose la question directement au porte-parole du gouvernement. Il sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. On se retrouvera donc à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le vice-président du Rassemblement national, député européen, Jordan Bardella, au micro d'Inter et le Standard qui est ouvert et vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter.
Il a su attendre son moment. Et son moment, c'est aujourd'hui. Belle revanche pour Yannick Bestaven, 48 ans, qui avait abandonné au bout de seulement 30 heures en 2008 après avoir dématé dans le golfe de Gascogne. 12 ans plus tard, le voilà donc, vainqueur du Vendée Globe. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, dit-il. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Agnès.
Vous avez escorté tout au long du chenal à bord du Zodiac France Inter ce héros du jour et vous voilà à présent tous les deux sur la terre ferme.
Oui, une arrivée, c'est vrai, en son et lumière pour Yannick Bestaven au cœur de la nuit. Une fois la ligne franchie, il a effectué une remontée très très lente du chenal comme pour mieux savourer, profiter de ce moment historique entouré de ses proches sur son bateau, sa compagne, ses deux filles et son équipe, accueillis, c'est vrai, par un feu d'artifice fourni par les flambeaux allumés par les bénévoles sur les quais. Il y a eu aussi ces encouragements, ces applaudissements des habitants à leurs fenêtres sur les balcons, moment à part et malgré les restrictions sanitaires qui a été à la hauteur de l'événement. Il y a à peine une demi-heure maintenant, le Rochelet a posé enfin les pieds à terre et son premier geste sur les pontons, et ça restera l'une des images aussi de cette arrivée hors norme, c'est de prendre dans ses bras Charlie Dalin, premier sur la ligne hier soir, mais finalement deuxième sur le podium. C'est aussi ça, Agnès, le sel du Vendée Globe.
Oui, une des images que nous avons savourées. Merci Jérôme Val. Alors, vous l'avez dit, Yannick Bestaven n'a pas franchi la ligne d'arrivée en première position. Il était même troisième. C'était un peu après 4h du matin. Derrière donc Charlie Dalin, arrivé hier soir, lui, à 20h35, et Louis Burton, arrivé à minuit et demi. Mais Yannick Bestaven a donc bénéficié de 10h et 15 minutes de bonification pour s'être dérouté lors du naufrage de Kevin Escoffier, finalement récupéré par Jean Le Cam. Jérôme Cadet, vous êtes où, vous, sur le ponton, au Sable d'Olonne aussi. Une course folle, donc une arrivée tout aussi folle pour un classement totalement inédit.
Oui, la nuit la plus longue conclue à la lumière des feux d'artifice, une nuit d'attente entamée à 20h35 précise. Charlie Dalin franchit la ligne, premier solitaire à en finir, mais le Normand sait que les bonifications peuvent tout remettre en cause.
Ça fait du bien d'avoir franchi la ligne d'arrivée. En tête d'avoir les honneurs de la ligne. Voilà, avant le départ, je disais que je voulais arriver avant le second, c'est chose faite. Après, voilà, il y a des compensations qui rentrent en jeu, donc voilà, on verra ce que ça donne au final, mais après, c'est normal.
Un quart d'heure plus tard, coup de tonnerre, l'Allemand Boris Herrmann, prétendant à la victoire, vient de heurter un bateau de pêche, Kevin Escoffier, venu attendre ses anciens compagnons compatis.
On vient de voir ce qui vient de se passer pour Boris Herrmann. C'est atroce pour lui. On voit que c'est jamais terminé, que la course, on a beau faire tous les pronostics que l'on souhaite, regarder, compter les heures, compter les minutes, il y a toujours un événement qui peut se passer et retourner la situation.
Herrmann est sain et sauf, mais écarté. Yannick Bestaven achève son tour du monde sans faute. Ses 10h15 de bonification lui permettent de s'imposer avec seulement 2h31 de marge.
J'ai jamais vu, ouais, c'est exceptionnel, hein, un tour du monde finir aussi proche, dans un mouchoir de poche comme ça, ça a été de la régate tout le temps. Bravo à Charlie qui arrive quelques heures devant moi. Il n'y a eu que des rebondissements. C'était une course avec des rebondissements.
Clap de fin sur le ponton. Charlie en lace Yannick. L'un est arrivé premier, l'autre a gagné. Inédit jusqu'au bout.
Merci Jérôme Cadet en direct des Sables d'Olonne. On rappelle donc le podium de ce 9e Vendée Globe. Yannick Bestaven, Charlie Dalin et Louis Burton. Et puis on attend l'arrivée de Boris Herman. Et on remercie Jérémy Tuile pour les moyens techniques.
Il est 7h05 sur le front du Covid, Agnès. La polémique continue autour du vaccin d'AstraZeneca.
En annonçant ne pas être en mesure de livrer les doses promises à l'Union européenne, le laboratoire britannique s'est attiré les foudres de Bruxelles sur fond de bras de fer avec Londres. L'Union européenne soupçonne AstraZeneca de fournir en priorité ses meilleurs clients, les Britanniques, via ses usines de production installées au Royaume-Uni, et exige la publication des contrats. Paris, de son côté, demande un contrôle des conditions de production et d'acheminement des doses de vaccins. Explication signée Fabien Cazot.
Du côté des laboratoires pharmaceutiques, on estime avoir fait de son mieux tout en regrettant publiquement de ne pas pouvoir aller plus vite. En amont de la chaîne logistique, la production se décompose en deux étapes. La production de la substance active, puis sa mise en flacon. C'est au premier niveau, explique-t-il, celui de la fabrication du liquide vaccinal, que la plupart des retards trouvent leur cause. Argument invoqué, la culture biocellulaire n'a pas toujours un rendement garanti sur facture. C'est ce qui explique notamment les retards annoncés par AstraZeneca en Europe. Des justifications qui ne convainquent pas les pouvoirs publics, ni l'Union européenne qui appelle les labos à respecter leurs engagements de livraison, ni le gouvernement français qui rappelle que les contrats prévoient une clause d'audit. Il pourrait être mené directement dans les usines de production en Belgique par les services sanitaires belges. Ce n'est pas en tapant du poing sur la table qu'on accélérera les rythmes de production, répond-on du côté des labos. Selon eux, les objectifs de livraison pour 2021 au niveau mondial seront tenus. À prix coûtant, insiste-t-il.
Une course au vaccin qui s'accélère alors que les variants se répandent. Le variant anglais est présent dans plus de 70 pays, le sud-africain dans une trentaine. Chaque pays a sa stratégie vaccinale et ses publics prioritaires. En Californie, pour l'instant, les doses sont réservées au personnel de santé et aux plus de 65 ans. Mais tous les jours, des files d'attente se forment devant les hôpitaux. Reportage à Los Angeles de Loïc Piala.
Des agents de sécurité vérifient que les patients dans la file ont bien rendez-vous. Derrière les vigiles, des tentes blanches et le Graal, le vaccin Moderna. Mais tous les jours, des dizaines de personnes convoquées ne se présentent pas. Or, les doses doivent être administrées dans les 6 heures et ne peuvent pas être restockées. Alors, une autre file s'est formée devant cet hôpital du sud de Los Angeles. Veshley Moy, une productrice quinquagénaire, attend dans une chaise de camping.
Ce serait vraiment trop triste qu'on ait consacré autant d'énergie à développer ces vaccins et qu'après on soit obligé de les jeter à la poubelle. Je suis heureuse de voir qu'il y aura des bras pour accueillir les doses restantes.
Le premier dans la queue, c'est Minor. Il est arrivé la veille dès 19h avec sa mère et sa fille.
Je croise beaucoup de monde au travail. Je dois protéger ma famille.
Le quartier est majoritairement latino, mais on voit surtout des blancs dans la file venus d'autres parties de la ville. Michel a conscience du décalage.
Mes amis et moi, on a beaucoup discuté du dilemme moral autour de tout ça. Pour rendre à la communauté, je suis allée dans des magasins du quartier.
Officiellement, selon les services de santé de Los Angeles, ces files d'attente n'existent pas. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Le chiffre du jour, c'est le record de morts au niveau mondial en 24 heures. Plus de 18 000 décès hier. En France, la pression s'accentue dans les hôpitaux, plus de 3100 malades en réanimation, des contaminations en hausse également, près de 27 000 en 24 heures et un taux de positivité à 7%. Sur franceinter.fr, vous retrouverez la carte des départements où le virus circule le plus. Il y aura donc bien de nouvelles restrictions, mais quand et comment? L'exécutif n'a pas encore tranché et attend de nouveaux bilans. Les hypothèses vont du maintien du couvre-feu généralisé à un confinement très serré, selon les mots du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui sera l'invité de Léa Salamé tout à l'heure à 8h10 sur Inter. Matignon, de son côté, poursuit ses consultations aujourd'hui et demain avec des élus et les partenaires sociaux. Et le patronat fait pression pour éviter la fermeture des commerces en multipliant les propositions. Hélène Philly.
Essentiel ou non essentiel, il ne faut pas retomber dans ce débat absurde pour le MEDEF et revoir ces images de rayons interdits dans les grandes surfaces, ces commerces empêchés d'ouvrir. L'enjeu est de taille, d'autant plus en période de soldes. Il faut pouvoir écouler les stocks et refaire la trésorerie. Même message de la CPME, des chambres de commerce et et d'industrie. Tous ont des idées pour lisser les déplacements et diminuer les flux. Pourquoi pas des prises de rendez-vous? Pourquoi pas une ouverture le matin et une fermeture l'après-midi? Un dirigeant patronal imagine même des créneaux de déplacement de 2 heures en fonction de votre nom de famille, de 8h à 10h pour les noms de A à C et ainsi de suite. Les commerces, répète le patronat, ne sont pas des lieux de contamination. Ils sont également des débouchés pour l'industrie comme la cosmétique qui serait aussi pénalisée par de nouvelles fermetures.
Il n'y aura pas de rapprochement entre les chantiers de l'Atlantique et l'italien Fincantieri. Le projet de mariage a été abandonné. Nous entendons dans le journal de 7h30 la satisfaction des élus de Loire-Atlantique. Il ne sera plus possible d'ici 3 ans d'acheter en quelques minutes un chaton ou un chiot dans une animalerie. Les députés ont voté hier l'interdiction de leur vente dans ces commerces en 2024 pour éviter les trop nombreux abandons. Les discussions sur le projet de loi contre la maltraitance animale se poursuivent à l'Assemblée. Les députés qui vont également tenter d'adapter la loi face à la multiplication des catastrophes naturelles. Des inondations dans l'arrière-pays niçois, à l'ouragan Irma à Saint-Martin, en passant par les sécheresses à répétition. Une proposition de loi du Modem soutenue par le gouvernement propose d'allonger les délais de déclaration des sinistres, de revoir les franchises à la baisse ou encore de prendre en charge les frais de relogement. Des mesures très attendues par des milliers de sinistrés. Sandy Dauphin.
Depuis 2016, la commune de Wanin, dans le Nord, connaît des sécheresses à répétition. Elle fissure les maisons construites sur des sols argileux qui gonflent et se rétractent. Mais pour faire marcher l'assurance, la commune doit être reconnue en état de catastrophe naturelle. Un vrai parcours du combattant, explique le maire Jean-Luc Lefebvre.
Il y a plusieurs indicateurs qui sont donnés au ministère pour définir cet état de catastrophe naturelle. Et là, il faut être un spécialiste pour les comprendre. Normalement, ils doivent nous donner une réponse dans les 3 mois. Et on en est très très loin. Et puis après, 10 jours pour prévenir l'assurance, en 2019 ou en 2020, ça a été décidé au mois d'août. Donc comment on fait pendant les vacances pour prévenir les intéressés, quoi.
Moins d'opacité, des délais rallongés pour déclarer un sinistre, la prise en charge de frais de relogement. La proposition de loi dépoussière le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Texte défendu entre autres par la députée du Pas-de-Calais, Marguerite Després-Audebert.
La loi actuelle était obsolète, elle datait de 1982, donc il fallait vraiment actualiser. On s'est rendu compte que les procédures n'étaient pas transparentes, qu'il fallait faciliter les démarches de reconnaissance parce que c'était très compliqué. Les élus étaient un petit peu dans le brouillard, n'avaient pas d'interlocuteur. Il fallait aussi sécuriser l'indemnisation des dégâts.
Et il y a urgence à réformer. Avec le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles vont devenir plus fréquentes.
La proposition de loi doit être débattue aujourd'hui à l'Assemblée. Et après l'exploit des navigateurs du Vendée Globe, la belle performance des handballeurs français qualifiés pour les demi-finales du Mondial grâce à la victoire hier soir face à la Hongrie. Sur le fil, 35 à 32 après prolongation. Les tricolores rencontreront en demi-finale la Suède demain soir au Caire. L'autre demi-finale opposera le Danemark à l'Espagne.
Agnès Soubiran, merci.